Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Sekjen Longten, bonsoir. Voici le journal de la voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Nous commençons avec les titres. Aung San Suu Kyi invite la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, à visiter Myanmar afin de discuter des questions de Rohingya. L'Assemblée consultative du peuple, ou MPRRI, et le Parlement de l'Iran sont d'accord d'aider les Rohingyas et la Palestine. Comme exemple de la biodiversité, Surabaya accueille le sommet de l'Asie de l'Est. Le ministre Jonan évalue que la sortie de l'OPEP ne dérange pas les affaires pétrolières de l'Indonésie. L'ambassadeur de l'Union européenne a dit « La démocratie indonésie était très bondée. » Et enfin, l'Indonésie a menacé de retirer les travailleurs migrants indonésiens dans le secteur de la pêche de sabah en Malaisie. Voici le journal complet. Le leader du Myanmar, Aung San Suu Kyi, invite la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, à visiter en particulier le Myanmar mardi le 6 décembre pour discuter des questions des musulmans de Rohingya dans l'état de Rakhine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a déclaré lundi que Mme Retno Marsudi rencontrerait Suu Kyi et mènerait des conversations privées. Après avoir parlé avec Suu Kyi, Mme Retno Marsudi a rencontré des ambassadeurs au Myanmar. L'invitation de Suu Kyi est le résultat du processus diplomatique du gouvernement indonésien. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a effectué des mesures en conformité avec les directives du président Joko Widodo. L'Indonésie et l'Iran ont convenu de travailler ensemble pour encourager le rôle actif pour accélérer l'indépendance de la Palestine et la protection pour la communauté de Rohingya au Myanmar. Il est l'un des résultats de la réunion entre le président de MPRRI, Zulkifli Hassan, et le président du Parlement iranien, Ali Larijani, au bureau du Parlement iranien à Téhéran lundi. Selon Zulkifli Hassan, les questions de Rohingya et la Palestine doivent obtenir une attention spéciale de frères musulmans. Le Parlement de l'Indonésie et l'Iran ont convenu de jouer le rôle plus actif pour l'indépendance de la Palestine et la protection des Rohingyas. Zulkifli Hassan a également exprimé la bonne volonté de l'Indonésie à participer activement de créer la paix au Moyen-Orient qui jusqu'à présent frappait par le conflit. L'Iran et l'Indonésie ont également convenu de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines économiques, politiques, sociaux et culturels. L'Iran et l'Indonésie sont deux pays majoritairement musulmans dont l'économie est en croissance. Surabaya est clou à nouveau à être l'hôte du séminaire régional du sommet de l'Asie de l'Est pour le renforcement des capacités pour la prévention et la lutte contre le violent de l'extrémisme qui est tenu par la Direction générale de la coopération de l'ASEAN, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, ainsi que le Centre pour l'étude de l'ASEAN, l'Université Erlangga et Graduate School d'études régionales et internationales, l'Université Hankook des études étrangères, les 5 et 6 décembre 2016. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, l'ambassadeur José Tavares, a déclaré lundi que Surabaya croisait comme un lieu de programme discutant des efforts de la prévention du terrorisme à une raison particulière. Il a dit qu'il tenait délibérément à Surabaya afin de ne pas seulement se concentrer sur Jakarta seul. En outre, Surabaya est également l'un des meilleurs exemples pour montrer au monde la diversité culturelle peut respecter et coexister harmonieusement. Selon José Tavares, la prévention est une clé pour résoudre les problèmes de terrorisme dans le monde. Les participants se réunissent afin de discuter des valeurs modérées qui sont pleines de tolérance. Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, Ignatius Jonan, a dit que le gouvernement ne subirait pas les contraintes à trouver un producteur de pétrole bien qu'il y ait la suspension provisoire des membres de l'OPEP. La décision du gouvernement a été prise parce qu'il était impossible de suivre cette décision de l'organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. La 171e séance de l'OPEP tenue à Vienne en Autriche mercredi le 30 octobre a décidé que les États membres réduisaient la production du pétrole brut d'1,2 million barils par jour hors de condensat. L'Indonésie est demandée de réduire leur production d'environ 5% ou de 37 000 barils par jour. L'Indonésie a choisi pour suspendre provisoire son adhésion à l'OPEP car elle ne peut pas réduire la production. Selon lui, l'état idéal est que l'Indonésie ne peut couper que jusqu'à 5 000 barils par jour parce que les besoins des recettes de l'État sont encore grands dans ce secteur. En outre, le projet du budget d'État 2017 a convenu de diminuer la production de pétrole l'année prochaine de 5 000 barils par jour. Avec le statut de membre, Ignatius Jonan a déclaré qu'il n'a pas affecté l'activité pétrolière impliquant l'Indonésie et d'autres pays voisins. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie et le Brunei Darussalam, Vincent Guérin, a salué la mise en œuvre de la démocratie indonésie qu'il a appelée très bondée, mais reste se conformer à la loi applicable. Après la réunion avec le président du Parlement, Setia Novanto, au complexe du Parlement de Jakarta, lundi, Vincent Guérin a dit que la réunion ne discutait pas seulement de la démocratie d'Indonésie, mais aussi la mise en œuvre au pays de l'Union européenne. Il a dit que l'Indonésie était un partenaire stratégique de l'Union européenne parce que l'Indonésie est un pays membre du groupe des 20, le pays avec le plus grand musulman et dispose d'un emplacement stratégique dans l'ASEAN. Car il est très important pour l'Union européenne d'intensifier la coopération avec l'Indonésie. Pendant ce temps, Novanto expliquait que les relations entre les deux parties avaient montré des progrès dans divers domaines. L'Union européenne, en tant que puissance économique et politique mondiale, est le partenaire important pour appuyer la réalisation des programmes de développement en Indonésie. Le gouvernement indonésien a menacé de retirer tous les citoyens indonésiens qui travaillent dans le secteur de la pêche dans l'état de Sabah en Malaisie si les enlèvements continuent de se produire. Cela a été dit par le consul d'Indonésie à Tawau, Krishna Jelani, dans une déclaration écrite à Antara, à Nunukan lundi, liée à l'otage contre des citoyens indonésiens dans les eaux de Lahat Datu de Sabah en Malaisie en novembre 2016. Cette menace, selon Krishna Jelani, est la forme de protestation au gouvernement malaisien qui sont impressionnés, ne donnent pas de protection de la sécurité aux citoyens indonésiens qui travaillent notamment dans le secteur de la pêche. Selon Krishna Jelani, les mesures qui sont prises par le gouvernement indonésien sont bonnes comme une forme de protection des citoyens qui travaillent dans le pays après les enlèvements par le groupe armé soupçonné Abu Sayyaf. Serditor, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la solidarité de l'Indonésie à l'égard du conflit de Rohingya. Le conflit de Rohingya est devenu plus long. Les tensions dans la région de Rakhine au Myanmar où les Rohingyas vivent ont augmenté ces derniers mois, causant la perte de vie et de maisons des résidents. Les pays du monde, surtout en Asie du Sud-Est, devraient faire des efforts pour créer la paix au Myanmar, parce que le Myanmar fait partie de l'ASEAN. L'instabilité dans le pays affectera certainement d'autres pays membres de l'ASEAN. Le gouvernement indonésien a fait des mesures diplomatiques pour trouver des solutions au conflit de Rohingya. En 2015, La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré son homologue du Myanmar, Wuna Mongling, et a produit un certain nombre d'accords sur les réfugiés de Rohingya. Entre autres, le gouvernement du Myanmar a convenu de prendre des mesures préventives sous forme de migration irrégulière. Deuxièmement, le Myanmar est prêt à coopérer avec les pays de la région pour lutter contre la traite des êtres humains. Cette année, précisément lundi le 5 décembre, le président de l'Assemblée consultative indonésienne MPR, Zulkifli Hasan, a rendu visite au bureau du Parlement iranien à Téhéran. Au cours de la visite, Zulkifli Hasan et le président du Parlement iranien, Ali Larijani, ont convenu de collaborer pour augmenter un rôle actif pour protéger la communauté de Rohingya au Myanmar. En plus du gouvernement et du Parlement, le soutien et la solidarité aux Rohingya est également démontré par la communauté, les agences humanitaires et le gouvernement local indonésien, entre autres, en envoyant de l'aide à Rakhine au Myanmar où vivent les musulmans de Rohingya. Le conflit Rohingya est un problème humanitaire. L'Indonésie, comme l'un des pays voisins est basé sur Pancasila, est obligée d'aider à soulager la souffrance des musulmans de Rohingya. En effet, la persécution des Rohingyas au Myanmar ne devrait pas se produire. Fondamentalement, tous les êtres humains sont les mêmes et ils devraient être bien traités et également décemment. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 6 décembre 1917, la Finlande proclame son indépendance. Au XVIIIe siècle, ce pays a été occupé par les troupes russes à deux fois. Dans les années 1860, a été témoin d'une résurgence de l'esprit du nationalisme et de la nation du mouvement phénomène de la Finlande. Le 6 décembre 1917, quelques mois après la révolution bolchevique en Russie, la Finlande avait déclaré l'indépendance. Malgré cela, le pays a obtenu son indépendance seulement officiellement le 3 janvier 1918 et les différends frontaliers ont été résolus après le traité de Tartu a été signé en 1920. La République de Finlande est un pays scandinave, comprend également les pays nordiques. La Finlande est devenue membre de l'Union européenne car il est situé en Europe du Nord. Depuis 1154, le pays est devenu une partie du royaume de Suède. La Finlande est un pays industrialisé, a une économie de marché libre, la production par habitant à peu près égale au Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. Le 6 décembre 1922, l'Irlande séparée du Royaume-Uni. L'Irlande est un pays qui couvre 5/6 de l'île d'Irlande, qui est située dans la partie nord-ouest de l'Europe. Cette île qui ne comprend pas cette république est possédée par l'Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni. À l'est est bordée par la mer Irlande, au nord de l'Irlande du Nord, à l'ouest et au sud bordée par l'océan Atlantique. Le 29 décembre 1937, l'accord qui a reconnu l'indépendance de l'Irlande est signé par le dirigeant de l'Irlande du Sud et le gouvernement du Royaume-Uni. Mais la Grande-Bretagne ne réalise pas le contenu de l'accord. Après la guerre en 1949, les gens de l'Irlande du Sud ont annoncé officiellement son indépendance de la Grande-Bretagne. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée L'Indonésie gèle temporairement l'adhésion de l'OPEP. L'Indonésie a décidé de suspendre son adhésion à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP. La décision a été prise à la 171e session de l'OPEP à Vienne, en Autriche, le mercredi 30 novembre 2016. Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, M. Ignatius Jonan, qui a été assisté à la session, a déclaré que l'étape de congélation a été prise suite à une décision de réduire la production de pétrole brut de 1,2 million de barils par jour à l'exclusion des condensats. M. Ignatius Jonan a rapporté par Republika a déclaré jeudi que la session a également demandé à l'Indonésie de réduire environ 5% de sa production, soit environ 37 000 barils par jour. En fait, les besoins de revenus de l'État sont encore énormes et dans le projet de budget en 2017, il a été convenu que la production de pétrole en 2017 sera en baisse de 5 000 barils par rapport en 2016, ainsi la réduction acceptable pour l'Indonésie est de 5 000 barils par jour. Selon M. Jonan, comme un importateur de pétrole brut, les réductions de capacité de production ne sont pas favorables pour l'Indonésie parce que les prix de pétrole, théoriquement, vont augmenter. En gelant les membres de l'OPEP, l'Indonésie a eu suspendu deux fois les membres de l'OPEP. La première était en 2008, en vigueur en 2009. L'Indonésie a décidé de nouveau d'être actif en tant que membre de l'OPEP au début de 2016. Selon M. Ignatius Jonan, le gel temporaire est la meilleure décision pour tous les membres de l'OPEP parce que la décision d'une réduction de 1,2 million barils par jour peut être faite et d'autre part, l'Indonésie n'est pas liée à la décision qui ne sont pas en conformité avec les intérêts nationaux de l'Indonésie. Cependant, le président Joko Widodo est d'accord avec la décision indonésienne de sortir de l'OPEP. Cela vise à améliorer l'état du budget de l'État. Selon le président, l'amélioration du budget de l'État est plus importante au milieu des revenus lents qui a conduit à des coupes budgétaires de l'État. Le président Joko Widodo, lors de l'ouverture d'une réunion de la direction nationale de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie à Jakarta, le jeudi 1er décembre, a déclaré que l'Indonésie auparavant avait décidé de rejoindre l'OPEP parce que ce pays veut avoir des informations sur les fluctuations des prix et des conditions de stock de pétrole dans chaque pays membre. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie chargé des affaires de l'énergie et de pétrole et aussi de gaz, M. Bobby Ghaffour Umar, soutient le gouvernement indonésien qui a gelé ses membres. La raison est, si cela n'est pas fait, l'Indonésie doit réduire sa production de pétrole. En fait, l'Indonésie est devenue un importateur de pétrole. Par conséquent, la décision du ministre des Ressources minérales et de l'Énergie est correcte. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le leader du Myanmar, Aung San Suu Kyi, invite la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, à visiter en particulier le Myanmar mardi le 6 décembre pour discuter des questions des musulmans de Rohingya dans l'état de Rakhine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Attar Nasir, a déclaré lundi que Mme Retno Marsudi rencontrerait Suu Kyi et mènerait des conversations privées. Après avoir parlé avec Suu Kyi, Mme Retno Marsudi a rencontré des ambassadeurs au Myanmar. L'invitation de Suu Kyi est le résultat du processus diplomatique du gouvernement indonésien. la ministre des Affaires étrangères, Mme Ratou Marsoudi, a effectué des mesures en conformité avec les directives du président Joko Widodo. L'Indonésie et l'Iran ont convenu de travailler ensemble pour encourager le rôle actif pour accélérer l'indépendance de la Palestine et la protection pour la communauté de Rohingya au Myanmar. Il est l'un des résultats de la réunion entre le président de MPRI, Zulkifli Hassan, et le président du Parlement iranien, Ali Larijani, au bureau du Parlement iranien à Téhéran lundi. Selon Zulkifli Hassan, les questions de Rohingya et la Palestine doivent obtenir une attention spéciale de frères musulmans. Le Parlement d'Indonésie et l'Iran ont convenu de jouer le rôle plus actif pour l'indépendance de la Palestine et la protection des Rohingyas. Zulkifli Hassan a également exprimé la bonne volonté de l'Indonésie à participer activement de créer la paix au Moyen-Orient, qui jusqu'à présent frappait par le conflit. L'Iran et l'Indonésie ont également convenu de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines économiques, politiques, sociaux et culturels. L'Iran et l'Indonésie sont deux pays majoritairement musulmans dont l'économie est en croissance. Surabaya est cru à nouveau à être l'hôte du séminaire régional du sommet de l'Asie de l'Est pour le renforcement des capacités pour la prévention et la lutte contre le violent de l'extrémisme qui est tenu par la Direction générale de la coopération de l'ASEAN, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, ainsi que le Centre pour l'étude de l'ASEAN, l'Université Erlangga et Graduate School d'études régionales et internationales, l'Université Hankook des études étrangères, les 5 et 6 décembre 2016. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, l'ambassadeur José Tavares, a déclaré lundi que Surabaya croisait comme un lieu de programme discutant des efforts de la prévention du terrorisme à une raison particulière. Il a dit qu'il tenait délibérément à Surabaya afin de ne pas seulement se concentrer sur Jakarta seul. En outre, Surabaya est également l'un des meilleurs exemples pour montrer au monde la diversité culturelle peut respecter et coexister harmonieusement. Selon José Tavares, la prévention est une clé pour résoudre les problèmes de terrorisme dans le monde. Les participants se réunissent afin de discuter des valeurs modérées qui sont pleines de tolérance. Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, Ignatius Jonan, a dit que le gouvernement ne subirait pas les contraintes à trouver un producteur de pétrole bien qu'il y ait la suspension provisoire des membres de l'OPEP. La décision du gouvernement a été prise parce qu'il était impossible de suivre cette décision de l'organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. La 171e séance de l'OPEP tenue à Vienne en Autriche mercredi le 30 octobre a décidé que les États membres réduisaient la production du pétrole brut d'1,2 million barils par jour hors de condensat. L'Indonésie est demandée de réduire leur production d'environ 5% ou de 37 000 barils par jour. L'Indonésie a choisi pour suspendre provisoire son adhésion à l'OPEP car elle ne peut pas réduire la production. Selon lui, l'état idéal est que l'Indonésie ne peut couper que jusqu'à 5 000 barils par jour parce que les besoins des recettes de l'État sont encore grands dans ce secteur. En outre, le projet du budget d'État 2017 a convenu de diminuer la production de pétrole l'année prochaine de 5 000 barils par jour. Avec le statut de membre, Ignatius Jonan a déclaré qu'il n'a pas affecté l'activité pétrolière impliquant l'Indonésie et d'autres pays voisins. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie et le Brunei Darussalam, Vincent Gerang, a salué la mise en œuvre de la démocratie indonésie qu'il a appelée très bondée, mais reste se conformer à la loi applicable. Après la réunion avec le président du Parlement, Setia Novanto, au complexe du Parlement Jakarta lundi, Vincent Gerang a dit que la réunion ne discutait pas seulement de la démocratie d'Indonésie, mais aussi la mise en œuvre au pays de l'Union européenne. Il a dit que l'Indonésie était un partenaire stratégique de l'Union européenne parce que l'Indonésie est un pays membre du groupe des 20, le pays avec le plus grand musulman et dispose d'un emplacement stratégique dans l'ASEAN. Car il est très important pour l'Union européenne d'intensifier la coopération avec l'Indonésie. Pendant ce temps, nous avons expliqué les relations entre les deux parties avaient montré des progrès dans divers domaines. L'Union européenne, en tant que puissance économique et politique mondiale, est le partenaire important pour appuyer la réalisation des programmes de développement en Indonésie. Le gouvernement indonésien a menacé de retirer tous les citoyens indonésiens qui travaillent dans le secteur de la pêche dans l'état de Sabah en Malaisie si les enlèvements continuent de se produire. Cela a été dit par le consul d'Indonésie à Tawau, Krishna Jelani, dans une déclaration écrite à Antara, à Nunukan Langdi, liée à l'otage contre des citoyens indonésiens dans les eaux de Lahat Datu de Sabah en Malaisie en novembre 2016. Cette menace, selon Krishna Jelani, est la forme de protestation au gouvernement malaisien qui sont impressionnés, ne donne pas de protection de la sécurité aux citoyens indonésiens qui travaillent notamment dans le secteur de la pêche. Selon Krishna Jelani, les mesures qui sont prises par le gouvernement indonésien sont bonnes comme une forme de protection des citoyens qui travaillent dans le pays après les enlèvements par le groupe armé soupçonné Abu Sayyaf. Serditor, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serditor, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices, on se voit encore dans la rubrique de magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire un voyage culinaire à Yogyakarta. Donc restez toujours avec nous à RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Outre parents de courte, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id. Chers amis, à la fin de novembre, le secteur touristique de la région spéciale de Yogyakarta organisait un festival culinaire au village touristique Kalakijo, à la régence de Bantul. Ce festival a été organisé afin de soutenir le développement du secteur touristique de Yogyakarta, étant donné que Yogyakarta est riche de destinations culinaires ainsi que les destinations touristiques. Il y avait quatre genres de culinaires qui se sont compétés dans ce festival. Ce sont gudeg manggar, sate klatak, ingkung et nui letek. Ce sont les culinaires spécialisés de Yogyakarta. Nous allons vous présenter l'un de ces culinaires, la nui letek. Chers auditeurs, letek est un mot javanais qui signifie « sale ». Cette nui s'appelle letek car elle a l'air plus sombre que les autres genres de nui. Mais ne vous inquiétez pas, la production de la nui est totalement propre. La nui letek a l'air moins propre car la production est encore traditionnelle. De plus, elle n'utilise pas du conservateur et de l'eau de Javel. Le district Srandakan à Bantul est connu comme le centre de production de la nui letek. On dit que cette nui était déjà là depuis les années de 1940, dans certaines maisons d'artisanat. La façon traditionnelle dans sa production est gardée jusqu'au présent. Chers auditeurs, la nui letek est produite à partir de la farine de manioc et du manioc séché. Les deux matériaux sont mélangés en utilisant une grande meuleuse cylindrique traditionnelle tirée par des vaches. Après, les ingrédients principaux de la nui sont cuits à la vapeur. On répète ce processus plusieurs fois. Après, la nui est séchée avant d'être formée. On sèche la nui au soleil pendant environ 18 heures. Et après, on utilise une machine pour former la nui. Comme la production exige du rayon du soleil, on fait moins pendant la saison des pluies. Chers auditeurs, la nui letek ressemblait à la nui de riz. mais avec la couleur étant plus sombre et la taille qui est légèrement plus épaisse. Puis la texture est plus moelleuse que les autres genres de nuit en général. La nuit latec est habituellement transformée en nuit frite ou nuit bouillie spécialisée du Java. Vous pouvez trouver tous les deux dans plusieurs restaurants à Yogyakarta. Le prix est environ 15 000 à 20 000 roupias. Si vous voulez chercher les ingrédients principaux de la nuit latec, vous pouvez les chercher au marché traditionnel de Bantul. Ou vous pouvez visiter directement les villages auxquels la production se fait, comme au village Bendo et Trimurti, au district Srandakan, la région Bantul de Yogyakarta. Chers auditeurs et auditrices, voilà cette édition du magazine culturel d'aujourd'hui dont le sujet est la nuit latec. Bien, nous vous reviendrons demain avec d'autres sujets aussi intéressants. Au revoir.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs et auditrices, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien, qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est berkenalan, ou en français on dit se connaître. Allons-y. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions reliées au thème aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répéterez après. Berkenalan. Berkenalan. En français, se connaître. Selamat malam. Selamat malam. En français, bonsoir. Bolehkah saya menjadi temanmu? Bolehkah saya menjadi temanmu? En français, pourrais-je vous connaître? Siapa namamu? Siapa namamu? En français, tu t'appelles comment? Memanggil. Memanggil. En français, appeler. Di mana? Di mana? En français, où? Tinggal. Tinggal. En français, habiter. Tidak jauh dari sini. Tidak jauh dari sini. En français, pas loin d'ici. Mahasiswa. Mahasiswa. En français, étudiant. Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. En français, l'Université d'Indonésie. Kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu. En français, travailler à temps partiel. Pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. En français, échange d'étudiants. Bidang studi. Bidang studi. En français, le sujet. Kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia. En français, la culture indonésienne. Belanda. Belanda. En français, les Pays-Bas. Senang berkenalan denganmu. Senang berkenalan denganmu. En français, enchanté
Sampai bertemu nanti. Sampai bertemu nanti. En français, à tout à l'heure. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Rudy Darmawan, A, et Robert, B. A. Selamat malam. Selamat malam. En français, bonsoir. B. Selamat malam, saya Robert Van de Kok. Selamat malam, saya Robert Van de Kok. En français, bonsoir, je m'appelle Robert Van de Kok. A. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. En français, enchanté. B. Bolehkah saya menjadi temanmu? Bolehkah saya menjadi temanmu? En français, pourrais-je vous connaître? A. Tentu boleh. Tentu boleh. En français, bien sûr. B. Siapa namamu? Siapa namamu? En français, tu t'appelles comment? A. Nama saya Rudy Darmawan. Nama saya Rudy Darmawan. En français, je m'appelle Rudy Darmawan. Tapi kamu boleh memanggil saya Rudy. Tapi kamu boleh memanggil saya Rudy. En français, mais tu peux m'appeler seulement Rudy. B. Di mana tempat tinggalmu? Di mana tempat tinggalmu? En français, tu habites où? A. Jalan Pelabuhan Ratu nomor 13, Kebayoran Baru. Tidak jauh dari sini. Jalan Pelabuhan Ratu nomor 13, Kebayoran Baru. Tidak jauh dari sini. En français, j'habite à 13 rue Pelabuhan Ratu à Kebayoran Baru, pas loin d'ici. B. Selain menjadi mahasiswa, kamu bekerja paruh waktu juga. Selain menjadi mahasiswa, kamu bekerja paruh waktu juga. En français, en tant qu'étudiant, tu travailles autrement à temps partiel? A. Ya, selain menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, saya juga bekerja di RRI sebagai penyiar bahasa Inggris. Ya, selain menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, saya juga bekerja di RRI sebagai penyiar bahasa Inggris. En français, oui, outre qu'un étudiant de l'Université d'Indonésie, je travaille aussi à RRI en tant qu'un radiodiffuseur d'anglais. Apakah kamu mahasiswa baru di sini? Apakah kamu mahasiswa baru di sini? En français, es-tu nouvel étudiant ici? B. Ya, saya mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Ya, saya mahasiswa baru di Universitas Indonesia. En français, oui, je suis un nouvel étudiant à l'Université d'Indonésie. Saya ikut pertukaran mahasiswa. Saya ikut pertukaran mahasiswa. Je participe à l'échange d'étudiants. A. Kamu berasal dari negara mana? Kamu berasal dari negara mana? En français, tu viens d'où? Kamu mengambil bidang studi apa? Kamu mengambil bidang studi apa? En français, quel sujet apprends-tu? B. Saya dari Belanda. Saya dari Belanda. En français, je viens des Pays-Bas. Saya tertarik untuk belajar kebudayaan Indonesia. Saya tertarik untuk belajar kebudayaan Indonesia. En français, je suis intéressé à apprendre la culture indonésienne. A. Sudah berapa lama kamu tinggal di Indonesia? Sudah berapa lama kamu tinggal di Indonesia? En français, tu es déjà resté ici depuis combien de temps? Dan mengapa kamu ingin belajar kebudayaan Indonesia? Dan mengapa kamu ingin belajar kebudayaan Indonesia? En français, et pourquoi tu es intéressé à apprendre la culture indonésienne? B. Saya tinggal di Indonesia sudah 1 tahun. Saya tinggal di Indonesia sudah 1 tahun. En français, je suis déjà resté en Indonésie depuis 1 an. Karena kebudayaan Indonesia sangat menarik dan beragam jenisnya. Karena kebudayaan Indonesia sangat menarik dan beragam jenisnya. En français, parce que la culture indonésienne est très intéressante et très diverse. A. Baiklah, senang berkenalan denganmu. Baiklah, senang berkenalan denganmu. En français, d'accord, enchanté. B. Sampai bertemu nanti. Sampai bertemu nanti. En français, à tout à l'heure. Chers auditeurs, voilà cette édition du programme Apprendre l'Indonésien. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis de l'antenne, voici le magazine musical. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons de Dangdut. Alors restez toujours avec nous, La Voix d'Indonésie, le service international de la Radio République Indonésienne. Vous pouvez entendre par l'intermédiaire des zones courtes sur 9525 kHz la diffusion en direct dans www.voe.co.id ou via RR Replay sur votre téléphone intelligent. Pour ouvrir notre rencontre, nous vous présentons la chanson de Denias intitulée « Ne crois plus ». Bonne écoute.
Akan mengulanginya, menghias.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Denias intitulée « Ne crois plus ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Chers auditeurs, la chanson intitulée « Ne crois plus » raconte la confiance de l'amour qui est souvent trahi mais donne toujours le pardon. Denias espère que cette chanson peut guérir beaucoup de gens qui ont le cœur brisé et dessous avec son partenaire. Les paroles sont assez tristes, mais la musique de la chanson ne décrit pas la tristesse. La musique a été bien arrangée, de sorte que les auditeurs peuvent encore balancer tout en écoutant la chanson intitulée « Ne crois plus ». Cette chanson soulève la musique de dangdut moderne avec la musique plus fraîche. Elle espère le succès similaire comme premier single intitulé « Acceptez mon amour » lancé en août 2016. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Denias intitulée « Acceptez mon amour ». Bonne écoute. chers auditeurs, un homme qui a un nom complet, Denis Faisal Ismail, et communément appelé Denias, a commencé sa carrière dans l'industrie musicale indonésienne lors de participer au concours de dangdut d'Indonésie ou KDI à Jakarta. En 2015, il sort son premier single intitulé « Acceptez mon amour ». Cette chanson, qui a été créée, raconte un espoir et la divulgation du sentiment d'une personne pour que son amour puisse être reçu. Le concept de la musique dans cette chanson est plus nuancé de dangdut moderne avec une touche de musique indienne et arabe. Grâce au succès de son premier single, Denias est plus connu comme chanteur de dangdut dans le pays. Denias couvrait alors des chansons d'Iyad Bustami intitulées Ijuk. La chanson qu'elle a chantée avec André raconte l'amour qui est trahi. Les paroles sont poétiques, utilisent beaucoup de proverbes typiques malaises et sont pleines de sens. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée Ijuk de Denias et André. Bonne écoute et à bientôt.
Yang mana rambut bila bersanding hijau, beras taklah sama putih. Yang mana padi, mana ilalang, hampir tak dapat dibedakan. Bualan dan kasih sayang, kira siri akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca, belimbu bisa kaulah penyebab ku luka. Sangka bulan sayang yang dapat ku genggam sayang, rupanya kau bintang nan jauh tak mungkin dapat ku sentuh. Siri akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan.
Mengapa getah
damar ke bawah
menjadi kaca
belum berbisa?
Kaulah penyebab ku luka.
Atau program pok sosial Kang Dewi Demeng memak emem frekans abing tu.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.